Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous voici avec une autre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus du pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc, nous croyons fermement que dénoncer les abus du pouvoir et les injustices est un devoir de citoyen pour venir en aide à cette société qui est la nôtre. Voilà, chacun de nous est concerné et invité à participer à cet effort collectif. Nous faisons notre part, maintenant c'est à vous, chers citoyens, chers citoyenne, de faire le vôtre. Vous êtes témoin, victime d'une injustice, d'un abus de pouvoir de la part de nos autorités. Cet espace est réservé pour vous. Exprimez-vous publiquement en dénonçant les auteurs et les acteurs. Nous faisons le suivi. Appelez-nous au 514-273-4302. 273-4302 ou vous pouvez toujours nous écrire à info@commercialmage-quebec.com. info@commercialmage-quebec.com. Avec vous ce matin au micro Hadj Zitouni, un militant du MAGE, un mouvement en défense des droits de la personne face au système judiciaire qui fait défaut à plusieurs niveaux. Donc nous réservons l'espace de cette émission à un sujet de grande importance politique et sociale, le profilage racial, un phénomène qui frappe durement notre société et les autorités québécoises et canadiennes. Au premier lieu, ils avaient presque tous nié l'existence de ce phénomène. Pensons, dans cette voie, éliminer la controverse. Mais le problème est devenu colossal, insupportable, urgent. Vous devez le vivre, le racisme, pour en parler. Notre invité aujourd'hui est M. Mustapha Benkiran, consultant et chercheur en communication. Donc restez avec nous, nous reviendrons à notre sujet après notre thème musical.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Passait dans sa tête combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. « C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un paf obscène, un paf obscène est un abus.
Voilà donc, rebonjour chères auditrices, chers auditeurs. Selon la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, le profilage racial désigne toute action prise par une ou des personnes en situation d'autorité à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose sur des facteurs d'appartenance réelle ou présumée, telle la race, la couleur, l'origine ethnique ou nationale ou religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d'exposer la personne à un examen ou un traitement différent. Le profilage racial inclut aussi toute action de personnes en situation d'autorité qui applique une mesure de façon disproportionnée sur des segments de la population du fait notamment de leur appartenance raciale, ethnique ou nationale ou religieuse, réelle ou présumée. Donc ce que nous devons souligner aujourd'hui, c'est le fait que plusieurs politiciens, notamment au Québec, avaient affirmé il y a quelques années l'inexistence du profilage racial au Québec. Il a fallu des milliers et des milliers de voix et d'alertes afin de les convaincre du cas contraire. J'avais souligné dans le début de cette émission qu'il faut vivre ce phénomène pour se prononcer. Et malheureusement, la plupart de ceux qui se sont penchés sur le sujet n'ont jamais vécu un tel phénomène. Personnellement, je vis au Québec depuis plus que 20 ans et je vis toujours cette injustice en permanence, continuellement, partout où je suis passé, à l'université, à l'emploi, dans l'espace public, dans les administrations, les hôpitaux, enfin rarement où je suis passé inaperçu. Pour le moment, il y a toujours quelqu'un qui va vous rappeler que vous êtes un étranger et que tu resteras toujours un étranger. Il y a 23 ans exactement, je me souviens encore comme c'était hier, à mon arrivée au Québec, alors arrivant à l'aéroport Mirabel pour la première fois, je disais bonjour à l'agent qui procédait à vérifier mon entrée au Québec. Il m'a répondu « D'où tu viens ?» Et c'est une question de routine, d'ordinaire, j'imaginais, pour tout le monde. Mais 23 ans après, et à chaque occasion, il y a quelqu'un qui me pose la même question. D'où tu viens? Et vous comprenez, à un moment donné, ça devient lourd à vivre, à supporter. Vous avez besoin que les gens ne vous posent plus cette question. Au moins pour une fois. Le professeur, le médecin, l'employeur, le vendeur, le voisin, le passant, le mécanicien, le boulangerie, tout le monde vous pose la même question et vous devrez toujours répondre, réaffirmer, préciser, rassurer. Alors un jour, j'ai fait cet exercice en posant la question à celui qui me l'a posé, d'où tu viens, madame? Et la dame, elle avait changé de couleur. Ses yeux sont bondés en me fixant, et quand j'ai vu qu'elle n'a pas voulu se prononcer, tout en souriant, je lui ai reposé la même question. Elle m'a répondu avec l'air un peu trop fâché, tu ne vois pas que je suis québécoise? Et j'ai répliqué, moi aussi madame. La dame, elle m'a tourné le dos, puis elle est partie. Donc pendant 23 ans, on te pose la même question et tu devras toujours confirmer à l'autre, le rassurer que vous n'êtes pas québécois. Je ne parle pas ici des cas de dénigrement, de discrimination ouverte, d'inégalité et beaucoup plus. Je parle d'une mentalité dure à supporter, consciemment ou inconsciemment qu'elle soit. J'ai renoncé désespérément à lutter contre ce fléau. Il y a toujours quelqu'un qui va vous rappeler que vous n'êtes pas chez vous, et j'avais même négocié à deux reprises un retour au foyer initial. Mais sans succès, trop de distance parcourue pour revenir à ce premier lieu. Donc je crains sérieusement de ne jamais aboutir à un de ces jour. Bref, au fur du temps, j'ai développé une carapace assez épaisse pour ne plus sentir ces coups directs ou indirects qui sont partis à perpétuité. Là, où ça devient dur à supporter. Et ça devient révoltant, c'est la situation de mon fils, âgé en ce moment de 13 ans et demi. Né à Pointe-Claire, au Québec, métis, il n'a jamais connu autre société que le Québec. Son éducation est purement québécoise. Sa vie en général se résume dans ce pays où il a vu le jour depuis sa naissance, alors qu'un jour il rentrait à la maison et il me pose cette fameuse question « Papa, d'où je viens ?» Donc il avait l'air de vouloir comprendre quelque chose qui lui a été caché. La vérité, je n'attendais pas une telle question. Et je lui ai répondu spontanément « Tu es Québécois, mon fils ?» Et il m'a répondu « Pourquoi les gens, d'abord, ils me demandent toujours d'où je viens ?» C'est un coup pour moi. Donc il faut comprendre qu'une telle interrogation soulève chez un enfant une incompréhension qui ne peut que nuire à son développement psychologique, physique et psychique même. Cet enfant, il est définitivement dans son pays d'origine. Autant que père, j'ai senti que les coups des années ont réussi cette fois à traverser la carapace qui me protégeait. Le coup était direct, pointu, déchirant le centre de mon cœur. C'était un choc qu'un enfant aussi naïf que le mien porte lourdement cette interrogation injustement. Finalement, si au bout de la ligne, j'ai fini par accepter de ne plus me stresser, de ne plus m'en occuper des regards et des mots racistes et discriminatoires à mon égard, je n'ai pas réussi à supporter que mon fils sera condamné le restant de sa vie à vivre une telle situation. Demander à quelqu'un constamment « d'où tu viens ?», c'est le rappeler toujours qu'il n'est pas d'ici. C'est lui dire qu'il est étranger. Mais nos enfants qui sont nés ici au Québec et qui n'ont pas d'autre destination que leur pays d'origine, le Québec, quels crimes ont-ils commis pour vivre de telles interrogations? Voilà l'identité nationale qui est bousillée à l'extrême. Vous allez entendre par la suite le témoignage de Dan Philippe, président de la Ligue des Noirs. Je l'ai rencontré la semaine dernière dans son bureau. Justement pour recueillir son opinion, lui l'homme de terrain qui a passé une grande partie de sa vie à lutter contre le racisme, un homme d'une grande modestie, il nous a reçus dans son bureau et avec une voix qui me semblait un peu découragée, il a surtout souligné que la communauté noire est toujours victime des abus de pouvoir de nos autorités policières à cause de la couleur de leur peau. D'où viens-tu ? Et le bas d'échelle d'une discrimination consciente ou inconsciente. Nous devrons d'abord apprendre à supprimer de notre langage cette curiosité pour donner l'occasion à l'autre d'apprécier notre rencontre. Donc le profilage racial devient davantage inquiétant quand il vise ces nouvelles générations qui sont issues principalement des minorités visibles, jeunes noirs, jeunes arabophones, hispanophones et bien sûr d'autres. On le sait, les principaux impacts de ce type de profilage est un incident direct, soit la criminalisation des jeunes issus de ces communautés, une méfiance grandissante à l'endroit des autorités et en particulier face aux forces policières. Attention, ne disons pas ici que rien n'a été tenté afin de modifier la situation. On se souviendra de la déclaration de Montréal contre la discrimination raciale en 89, la déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion en 2004, et la charte montréalaise des droits et responsabilités en 2007 et combien finalement d'autres mesures en place au fil des années. Mais pourquoi les résultats sont aussi minces au point d'un découragement quasi collectif? Après une pause musicale, nous allons écouter Monsieur Dan Philippe, président de la Ligue des Noirs de Québec. Il va nous rappeler que nous sommes loin d'atteindre l'objectif réel. Nous allons écouter Monsieur Dan Philippe.
Bonjour Monsieur Dan Philippe. Donc voilà, donc la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse avait lancé une consultation sur le profilage racial au moment où le coroner enquête sur la mort de Freddy Villanueva. Pensez-vous qu'il y a un rapport direct ou indirect entre les deux événements?
Vraiment, ce que nous avons vu, c'est que la question du profilage racial, c'est un fléau dans la société. Ce n'est pas seulement dans les cas de Freddy Villanueva. Nous avons eu plus que 20 ans de cette problématique et nous demandons au gouvernement de prendre des mesures pour essayer de corriger ça. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Comme vous savez également, la ville de Montréal n'a rien fait et les gouvernements, et nous adressons souvent au ministère de sécurité publique pour essayer à trouver des solutions. Ce que j'ai vu, c'est que ces gens-là nient cette problématique des profilages raciaux, et même dans les cas qu'ils sont en train de regarder ça, c'est les policiers qui font des enquêtes sur d'autres policiers. Autrement dit, ce n'est pas sérieux.
Monsieur Dan Philippe, la plupart de nos politiciens ont toujours réaffirmé que le profilage racial n'existe pas au Québec. Et cette consultation publique a prouvé le contraire. Selon vous, est-ce que nos politiciens ont toujours voulu ignorer ce phénomène ou ils ne savent pas réellement l'impact qui cause sur la société québécoise aujourd'hui?
Premièrement, il avait une enquête interne qui a été faite par quelqu'un au milieu des policiers qui démontre que dans certains endroits, certains arrondissements, il a eu plus que 300% des cas de profilage racial, des augmentations. C'est lui de la Commission des droits de la personne. J'avais participé également dans cette commission, mais je pense que c'est très important. Mais c'est le gouvernement a responsabilité pour protéger les citoyens contre les abus policiers, contre des profilages raciaux. Et si le gouvernement fait rien, autrement dit, ça va continuer. Je pense qu'en réalité, les gouvernements ne veulent pas bouger parce que s'ils bougent, peut-être ils vont déplaire des policiers comme tels. Oui. Et les policiers, ils ont des pouvoirs. Et si vous regardez la fraternité des policiers, c'est ces gens-là qui vraiment mènent la police comme telle. Le directeur de la police est vraiment marionnette pour les policiers. C'est des gens qui n'ont pas de pouvoir. Et ensuite, nous avons eu des cas où les policiers vont manifester contre n'importe qui est directeur, comme dans les cas des Roland Bourget, oui. Alain Saint-Germain, qui ont dit ils ont manifesté. Ensuite, ces gens-là démissionne comme tel. Autrement dit, s'il y a un directeur de la police qui fait quelque chose vraiment pour améliorer la situation, la fraternité et l'ensemble des policiers vont aller contre lui. Et pourtant, nous avons eu beaucoup de rapports de Malouf, Yaroski et beaucoup d'autres. Belma, un paquet de rapports qui démontrent cette problématique, et pourtant le gouvernement ne veut pas. Particulièrement la ville de Montréal qui est responsable pour la police.
Oui. Mais vous avez parlé, M. Dan-Philippe, vous avez parlé beaucoup vous avez visé plus les policiers. Est-ce que vous ne pensez-vous pas que c'est un phénomène qui est encore plus général? C'est pas juste les policiers, mais ça peut toucher encore les institutions publiques, même la mentalité. Mais est-ce que ce n'est pas une génération qu'il faut complètement la changer? Est-ce que ce n'est pas une éducation?
On doit faire une certaine éducation, mais il faut savoir que la communauté noire est directement ciblée par les policiers, l'arrestation non justifiable, emprisonnement, battu des gens, commis des voies de fait, tout ça. Autrement dit, c'est plus dramatique quand nous regardons la situation des policiers comme telle. Si, dit-on, nous sommes capables de trouver une solution pour les cas des policiers, peut-être qu'on peut commencer à regarder d'autres situations, mais c'est majeur. Il y a des cas que les gens sont arrêtés sans justification, mettent en prison, et ensuite c'est dégueulasse.
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, M. Daniel Philippe, c'est-à-dire pour vous que la grande priorité, c'était vraiment comment, si vous voulez, régler le problème, la confiance entre le citoyen, surtout le citoyen noir, avec les policiers. Sinon, après ça, ils peuvent passer au niveau du trait de l'emploi qu'ils ont.
Oui.
Pour vous, c'est une priorité première.
Absolument,
de régler ce problème de sécurité.
Absolument, parce que notre sécurité est plus importante que ce soit dans la société comme telle. Notre droit de pour avoir la vie, pour être secure dans la société, c'est très important. Et ensuite, si ces droits là sont brimés, c'est comme quoi que tous nos droits sont également brimés.
Mais monsieur Dan Philippe, vous avez passé presque la plupart de votre temps, de votre vie, à combattre ce fléau. Est-ce que vous pensez-vous maintenant arriver à cet âge-là, pensez-vous qu'il y aura un espoir avec la jeunesse qui vient de porter le flambeau et de continuer ce combat?
Alors, toujours, si on n'a pas des espoirs, regardez, on n'est même pas capable de continuer à vivre comme tel. Il y a toujours des espoirs, mais c'est très difficile. Quand j'ai vu la façon que le gouvernement agit dans une situation si sérieuse comme cela, et temps après temps, nous avons lui informé de cette situation-là.
Oui. Mais est-ce que avez-vous finalement peut-être si vous avez un message à passer aux jeunes d'aujourd'hui?
Et... Non, mais un de ces points que nous faisons constamment, c'est il faut faire attention. Les jeunes de la communauté particulièrement, c'est parce que tout de suite ces gens-là sont capables à revendiquer son droit. Les problèmes deviennent encore plus sérieux parce qu'ils vont être arrêtés, ils vont être mis en prison parce que il paraît que ces gens-là, s'ils ont de l'intelligence pour dire à certains policiers, vous ne pouvez pas faire ça, ça c'est mon droit, mais il va utiliser ça comme un outil contre ces gens-là. Autrement dit, nous donnons des conseils aux gens pour faire attention comme tel. En même temps, nous devons continuer la lutte contre les profilages raciaux.
Oui, mais c'est de votre part, maintenant, vous avez souligné quelque chose d'important. Est-ce que c'est une négligence de la part des jeunes ou bien c'est une ignorance de connaître leurs droits et de savoir comment se
défendre? Même dans les cas qu'il connaît son droit, s'il essaie à revendiquer son droit, ça va être plus difficile pour eux parce que les policiers vont utiliser ça comme des outils contre eux. Et s'ils demandent les noms des policiers et tout là, mais comme vous savez dernièrement, peut-être vous êtes au courant, oui. Il y a eu un escouade policier, ça c'était comment ça s'appelle là, comment cette escouade-là, qui était partout dans la ville?
Eclipse,
c'est bien ça, Eclipse, les noms m'échappaient. Et ces gens-là étaient partout, au milieu où il y a des gens de la communauté.
Ouais,
communauté noire,
vous voulez dire.
Communauté noire, et des sans-abri et tout ça,
oui.
Et ils ont brimé les droits de ces gens-là, ils ont battu ces gens-là, mettre ces gens-là en prison sans justification, oui. Et jusqu'à présent, on ne peut pas trouver des raisons pourquoi ça s'est fait. Oui. Et nous vivons supposément dans une société démocratique, et ça s'est fait ici. Et ensuite, je dirais que les politiciens doivent savoir, et les gens de la ville doivent savoir qu'il a eu cette injustice-là, mais au moins ça continue dans notre société.
Oui, peut-être j'aurais une dernière question. Est-ce que vous pensez dans les 10 années qui viennent, est-ce que vous pensez qu'il y aura une amélioration, une grande amélioration au Québec dans ce sens-là?
Je ne peux pas dire une bonne amélioration, mais il faut des changements. Comme vous savez, comme vous voyez, maintenant les gens n'acceptent pas ces injustices. Vous avez vu ce qui s'est passé à Montréal-Nord.
Ça fait la révolte.
Ou la révolte. C'est parce que les gens n'acceptent pas l'injustice. Ça peut passer n'importe où à Montréal. Et je ne pense pas que les gouvernements et la ville veulent avoir des situations semblables. Et s'ils ne veulent pas avoir des situations semblables, ouais, il faut agir.
Soudan Philippe, je pense que vous avez bien résumé. Je pense que vous avez finalement dit, si ce n'est pas le gouvernement qui bouge, ça sera le peuple qui va bouger.
Absolument.
Merci bien.
Donc voilà, chères auditrices, chers auditeurs, nous allons passer à une pause musicale et directement on va écouter M. Mostafa Benkiran, consultant et chercheur en communication média.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air à cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans, travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille. Ma France, Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs.
Alors, amis,
montre-toi donc, diplodocus, babouin, mégalomane, plus vicieux.
Toutes les tragédies que tu as vécues, la femme que tu aimais, traquée jusqu'à la mort, tout ça, je peux le faire disparaître. Je crée une unité spéciale. Aux pouvoirs spéciaux. Rejoins-moi et tu auras ta vengeance.
Les mutants? Non, je ne les déteste pas, mais il faut les contrôler.
Au Pays des Bulles, toute l'actualité de la bande dessinée, le lundi dès 13h.
Descends donc, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme!
Insérez une plaque porte-clé des amputés de guerre dans votre trousseau de clés par mesure de sécurité. Si vous perdez vos clés, l'association pourra vous les retourner par messagerie. Commandez vos plaques porte-clés au 1-800-250-3030 ou à amputedeguerre.ca.
Santé, médias, retraite, environnement, sport, parcs, enfants, circulation, beauté, logement, immigration, intégration, avortement, technologie.
Toute l'actualité vue par les filles du Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes, CGFI.
Un rendez-vous à ne pas manquer tous les jeudis à 11h.
Radio Centre-Ville vous donne des outils pour participer à la vie montréalaise. Émissions sur l'emploi, implication bénévole, droits des travailleurs, services communautaires, les solutions sont à votre portée sur le 102.3 FM. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Bonjour, monsieur Mostafa Benkiran. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, voulez-vous, si vous me permettez, se présenter à nos auditrices et auditeurs. Qui est Mostafa Benkiran?
Ben, c'est Mostafa Benkiran. Il est d'origine du Maghreb. Oui. Il a immigré ici, ça fait à peu près 30 ans. Et puis, il est venu avec ses bagages. Ses diplômes, etc., mais il a confronté beaucoup de choses. Alors, voilà, c'est de ce sujet-là qu'on parle aujourd'hui.
Oui, oui, c'est excellent, mais je veux savoir, vous faisiez quoi comme travail? Parce que je voulais quand même annoncer comme quoi vous êtes consultant, chercheur, communication.
Ben, j'étais informaticien, j'ai étudié aussi bien au Maroc qu'en France, et j'avais d'abord une formation de météorologue. J'ai travaillé plusieurs années à l'aéroport international de Casablanca et j'ai été accepté par ces bagages-là pour, voilà. Comme immigrant. Voilà.
Vous avez, M. Benkiran, comme tout le monde, vous avez écouté les paroles de M. Dan Philippe. Avez-vous quelque chose à dire?
Ben, écoutez, je veux juste ajouter une chose parce que vous m'avez présenté comme consultant. Effectivement, quand je suis revenu ici, ma formation préalable n'a pas servi et puis j'ai étudié et puis j'ai fait des études universitaires pour être consultant et chercheur en communication.
Communication, oui.
Maintenant, à votre question sur Dan Philippe, ben, c'est un homme épuisé, c'est un homme qui a lutté toute sa vie.
C'est ce que j'ai senti aussi, oui.
Et c'est un homme qui a beaucoup de courage de dire ce qu'il a dit et de continuer à lutter. Il faut beaucoup d'efforts et de persévérance, de bonne volonté et de loyauté pour être de ce type-là.
Le prêtre, vous dire quelqu'un qui porte des principes.
Voilà, des principes de justice, des principes de vouloir établir une société équitable. Il me rappelle beaucoup Ghislain Picard pour les autochtones. C'est pareil, il a lutté toute sa vie et il y a toujours un mur. Alors, c'est des gens qui sont là pour essayer d'améliorer la situation au Québec.
Oui. Merci. Mais vous avez souligné comme quoi vous vivez ici depuis 30 ans ou même plus. Est-ce que vous croyez que le profilage racial existe au Québec?
Ben, il a toujours existé depuis. Comme je vous ai dit, je suis venu avec des diplômes avec lesquels j'étais accepté comme immigrant. Oui. Alors, mais malgré ça, on me disait, est-ce que vous avez là l'expérience canadienne? Alors, on vient d'arriver, on a 12 années d'expérience en informatique, en météo, et on nous dit, bon, est-ce que vous avez l'expérience canadienne? Et puis, même au bureau d'immigration Canada, on m'a dit, écoutez, j'ai un travail pour vous dans une usine.
Oui.
Alors, écoutez... Je suis pas venu pour ça, je suis venu pour développer mes connaissances et développer ma situation. Et à la fin, la conseillère, soi-disant, elle regarde mon CV et elle me dit, bon, vous avez des difficultés, vous savez pourquoi? Vous avez mis dans la langue arabe.
Oui.
Le mot arabe, essayez de l'enlever. Textuellement.
Oui, oui, oui.
J'ai dit, écoutez, madame, je suis un arabe et je suis fier de l'être.
C'est bien de dire ça, vous êtes un arabe et j'espère que vous êtes ici aussi pour, je vous prends comme porte-parole si vous voulez, de cette communauté-là. Est-ce que vous pensez que le même traitement qui est visé à la communauté noire est visé par, ils sont visés, les arabes sont pareils?
Ben écoutez, les statistiques sont là. Beaucoup d'études, beaucoup de sondages ont démontré que les communautés qui sont le plus marginalisées, c'est trois. Les autochtones, les noirs et la communauté islamique. C'est eux qui sont les plus...
La communauté islamique, est-ce que vous parlez des Arabes?
Quand je parle d'islamique, c'est les Arabes qui font partie.
Parce qu'il y a des Arabes chrétiens, il y a des Arabes...
Je ne veux pas rentrer dans ce... Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Oui.
Mais quand je parle... C'est ce qu'on constate actuellement.
Oui.
Écoutez, c'est la communauté islamique arabophone qui est visée. Et les statistiques montrent qu'ils sont aussi bien diplômés, très très instruits, mais malgré ça, ils sont à l'écart. Alors, c'est au même titre. Le chômage, par exemple, le plus haut taux de chômage, c'est ces trois communautés. Autochtones, noirs et arabes islamiques.
Oui.
Il faut pas négliger de dire le terme. C'est la réalité.
Mais M. Mekaran, vous, autant qu'arabe, est-ce que vous avez vécu des injustices au profilage racial? À part le départ, là, le point de départ, vos diplômes n'étaient pas reconnus ici. Je pense que c'est une manière ici de vous demander de refaire vos études parce que pour avoir une reconnaissance.
Oui, d'accord. Alors j'ai refait mes études, effectivement. J'ai refait le bac, la maîtrise, le PhD. Et après, bon, il fallait... on me dit, bon, alors maintenant, vous pouvez trouver du travail. Je vais vous donner quelques exemples, là.
Ça vous avez dire que vous êtes en train de me dire qu'à travers tout ce parcours que vous avez repris des études, et vous n'avez pas obtenu encore un travail, ça vous...
Non, j'ai fondé ma propre entreprise, c'est Média International. C'est
la communication, oui. Vous êtes toujours chercheur, vous êtes toujours... Oui.
Et depuis que je suis arrivé, d'ailleurs, en 78, j'ai fondé Média International, qui est, avec laquelle je travaille, c'est une entreprise de communication. Alors, c'est un travail de freelance, c'est-à-dire indépendant. Alors, j'ai des contrats un peu de droite à gauche. Mais sur le plan recrutement, avec mes diplômes, je vais vous donner quelques exemples, par exemple, à Montréal. Une fois, je ne sais pas quand ils ont fait la charte de Montréal... Et ils ont donné la possibilité en créant un bureau. Un bureau contre la discrimination.
Ouais.
Alors moi, j'ai dit, bon, alors ça va être bon. Alors j'ai été... Et
mais que je veux dire, un bureau contre la discrimination, ça veut dire...
C'est-à-dire un comité qui était d'ailleurs dans la place près de la mairie.
Oui, oui.
Près de la mairie, qui était présidée par,
oui.
Par un noir. Alors ils ont bien choisi, mais... Ça, c'était juste de l'apparence.
Ouais.
Quoi? Parce que quand j'ai présenté mon dossier, la femme l'a vu et puis elle me dit, écoutez, vous ne pensez pas qu'on va laisser un Québécois sans travail et vous donner un travail à vous? Textuellement.
Ouais.
Ouais. Je suis resté comme ça. J'ai été voir le comité et il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et Média International, je faisais des offres parce que les appels d'offres pour la ville de Montréal.
Oui.
Et quand je présentais mon dossier, on me regardait d'une façon comme si je venais d'une autre planète. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? C'est juste une apparence qu'on vous donne, mais vous n'avez pas le droit à telle et telle chose, comme les autres.
Monsieur Mekaran, ça c'était un cas particulier, votre cas. Pensez-vous, vous généralisez tout le monde, vous pensez que tous les Arabes, ils ont...
Oui, vous m'avez demandé si j'ai vécu des cas particuliers. Oui, oui. Mais effectivement, les Arabes, surtout les Maghrébins,
oui.
Les Maghrébins, ils sont francophones, ils sont instruits, ils ont des diplômes, et on a un taux de chômage très important. Alors, c'est le système qui les met à l'écart. Pour quelle raison? Moi, je pense que c'est l'ignorance. Parce que la discrimination, c'est généré par l'ignorance.
Tout à fait, oui.
C'est tout. Et l'ignorance, elle conduit à la déchéance. Alors, ceux qui perdent, c'est le Québec.
Tout à fait, parce que ces gens-là, c'est justement parce que ces gens-là, ils sont sélectionnés, ils vont pas aller chercher n'importe qui, hein. Ceux qui vont rentrer au Québec, surtout la communauté maghrébine, c'est vraiment des gens diplômés, hautement diplômés.
Ben oui, en plus de ça, ils viennent ici, ils continuent à s'instruire, ils ont d'autres diplômes, ouais. Mais malgré ça, on va choisir quelques-uns pour donner une image, comme j'ai dit tout à l'heure, on va placer un noir, on va placer un arabe dans telle ou telle institution, mais c'est juste la façade.
Ouais.
Alors, même, je vais vous donner un autre exemple. j'ai essayé d'enseigner après mes études.
Oui.
Ben, écoutez.
C'était ça, pas possible.
Non, à l'UQAM, par exemple.
Comme chargé de
cours. J'avais le profil exact, j'ai donné mes diplômes et tout. Puis on m'a dit, bon. On va voir. Ouais,
okay. Et ça, vous pensez vraiment, c'est parce que c'est votre origine, parce que c'est votre origine qui fait défaut, c'est ça pour eux, c'est ça?
Non, mais c'était clair, parce que quand je lui ai dit, et j'ai été voir la directrice, écoutez, je remplis toutes les conditions, alors pourquoi on ne m'accepterait pas, au moins pour pouvoir donner, c'est-à-dire être un candidat parmi les autres.
Oui, monsieur McCarran, on va faire une pause musicale et on va continuer avec vous après la pause.
Je vais dire la légende de celui qui s'est enfui et fait les oiseaux des Andes se taire au cœur de la nuit. Le ciel était de velours, incompréhensiblement. Le soir tombe et les beaux jours meurent, on ne sait comment. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Sont égaux et l'injustice rebelle, Paris ou Santiago. Nous parlons même langage et le même chant nous lie. Une cage est une cage en France comme au Chili. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Sous le fouet de la famine, terre, terre des volcans, le gendarme te domine, mon vieux pays arrogant. Pays double où peuvent vivre des lièvres et des pumas, triste et beau comme le cuivre au désert d'Atacama. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Salpêtre, d'arsenic et de guano, mon pays contradictoire, jamais libre ni conquis, verras-tu sur ton histoire planer l'aigle des Yankees. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Présente ensemble, invisible, mais trahi, Neruda, que tu ressembles à ton malheureux pays. Ta résidence est la terre et le ciel en même temps, silencieux, solitaire et dans la foule chantant. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Monsieur Mustapha Benkeran, rebonjour. Donc, voulez-vous nous dire, y a-t-il une différence entre discrimination et profilage racial?
La discrimination, c'est pas une chose qui est interdite.
Ouais.
La discrimination, par exemple, quelqu'un peut préférer telle personne à une autre pour des critères qu'il juge valables. Mais la discrimination raciale, c'est là où la commission intervient. C'est lorsque quelqu'un est en autorité et qu'il prive quelqu'un à cause de sa race, sa religion, sa nationalité, etc. Mais le profilage racial, c'est quelque chose qui est répandu. C'est quelque chose qu'on a fabriqué dans la société. Et ce n'est pas quelqu'un en autorité qui le fait. C'est n'importe qui, monsieur tel ou monsieur tel, comme vous avez mentionné tout à l'heure, ça peut être l'épicier, ça peut être le vendeur, ça peut être n'importe qui, qui vous regarde et puis il dit, bon, cette personne, elle a des caractéristiques qu'on a publiées dans les médias et qu'on a propagées, donc j'ai le droit de le mettre à l'écart, ou mais avec une certaine souplesse pour que je me fasse pas prendre.
Ouais, voilà.
Alors c'est ça le profilage, et ça c'est pratiqué, et c'est la base aussi de avec laquelle on a instauré l'apartheid.
Exactement.
En Afrique du Sud, c'est à cause de ça. Alors c'est dangereux le profilage racial. Alors, ce qu'il faudrait, c'est essayer d'éduquer les gens, la population, par les médias, parce que les médias doivent être un outil d'éducation, qu'il n'y a pas de différence entre un noir, un blanc, un petit, un immigrant, ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui vient ici fait partie de notre société.
Tout à fait, oui.
Alors,
vous pensez que pour l'éducation, il faut vraiment que le système scolaire intervienne.
C'est pas seulement le système scolaire, le gouvernement, les médias. Ouais. Le système scolaire, c'est une partie.
Mais c'est l'éducation, ça vient.
C'est l'éducation en général, parce que c'est fabriqué, comme j'ai dit. Le profilage est fabriqué. Alors, c'est une fabrication.
Il est pas voulu, là. Est-ce que c'est conscient ou inconscient? C'est difficile à dire.
Non, j'ai parlé d'ignorance tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est par ignorance, c'est parce qu'on craint l'autre. On a dit, si on lui donne tous les droits comme nous, il va nous prendre une partie de ce que nous avons.
Okay.
C'est à nous. C'est pas à vous. Alors, c'est ça, c'est de l'ignorance et c'est de la mesquinerie. Mesquinerie, ça veut dire...
Mais M. Benkeran, vous avez quand même vécu, vous m'avez souligné, comme quoi vous avez vécu des cas de profilage racial. Voulez-vous nous dire quel genre de cas et comment vous avez pu, quelles sont les méthodes, si vous voulez, que vous avez suivies pour régler votre problème? Donnez-nous un cas, un exemple, que vous avez, je pense que vous avez plusieurs, mais un ou deux.
J'ai vécu plusieurs, mais je vais parler en général peut-être. Moi, comme je vous ai dit, dès que j'ai terminé mes études universitaires, j'ai donné des conférences dans des colloques et des congrès internationaux. Et j'ai été, à Edmonton en 87, je pense, pour présenter une conférence dans un congrès sur l'éducation multiculturelle et interculturelle. Et par coïncidence, regardez ce qui s'est passé.
Oui.
Nous, on faisait le congrès et on a entendu qu'à Montréal, un policier, je cite pas le nom, qui avait arrêté un noir, il le lâche, il lui dit « va-t'en ». Le gars s'en va dans la cour et puis il l'appelle pour se retourner. Il se retourne et lui tire dessus.
Ah, c'est un canadien, ça.
Ouais, il lui tire dessus, paf. Alors... C'est au moment où on faisait le congrès pour essayer d'avoir une éducation interculturelle. Ça m'a touché personnellement. Quand je suis arrivé ici, on a vécu un drame dans la communauté. Un mari, arabe, musulman, on l'a arrêté, la police l'a arrêté. Et quelques heures plus tard, il s'est pendu, il est mort.
Dans sa cellule ou...
Dans sa cellule.
Ah, ok.
On a dit qu'il s'est pendu. Mais les analyses ont montré qu'il a reçu des coups.
Oui, on a eu plusieurs.
Alors, on a fait une grande manifestation.
Oui.
Et cette manifestation a donné naissance à un groupe qui s'appelle Groupe à l'Islam, avec lequel on a essayé d'organiser la communauté avec les autres communautés autochtones, noires, etc. C'est-à-dire qu'on se donne, on a essayé de se donner les outils pour avoir des comités de défense, des comités de travail, des comités. Ben, figurez-vous que les gens étaient volontaires, mais on a eu des obstacles qui sont venus d'un peu partout, par des institutions officielles. Alors, c'est ça, c'est des choses qui sont arrivées. Par la suite, on a fondé un institut contre la diffamation et la discrimination raciale. Et j'ai présenté une proposition pour un projet de loi.
Lequel ?
Un projet de loi, je l'ai présenté au ministère des Affaires étrangères, au ministre lui-même que j'ai rencontré, et j'ai défendu le projet devant petit groupe.
Oui.
C'était la criminalisation
oui.
de la discrimination raciale. Pourquoi ?
Monsieur, oui.
Il faut la rendre criminelle. C'est pas parce que maintenant quelqu'un qui est victime d'une discrimination raciale, il faut aller devant la commission. La commission, après une année, après deux ans, lui, il subit.
C'est trop difficile pour le...
Il subit, il est victime. Et là, la cicatrice s'enfonce. La cicatrice s'enfonce. Et puis après, il faut aller devant le tribunal. Après, on va lui dire, on va te déménager, on va te donner un peu d'argent. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'on cherche. C'est une blessure interne.
Exactement.
La discrimination raciale, c'est une blessure. Et comme c'est une blessure, il faut que la police s'en charge. C'est criminel.
Tout à fait.
Alors,
mais c'est...
le ministre, je vous dis comment on travaille là-dedans. Alors, juste avant les élections, là, il me dit, écoute, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose, on va l'envoyer au ministre... au ministre de la Justice, c'était Kotler,
ouais.
Pour voir, et puis on a étouffé l'affaire. Récemment, avec le nouveau député, M. Trudeau, très sympathique,
ouais.
Je lui ai donné une lettre aussi à ce sujet-là, aucune suite.
Okay.
Alors, je vous dis, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On essaye d'améliorer la situation. Et ça, c'est pour le bien de notre Québec. C'est très important, c'est notre Québec. On ne peut pas nous dire... comme on me dit, moi, d'où tu viens ? Non, c'est pas ça. Rentrez chez vous.
Retourne chez vous.
Moi, quand on me dit ça, j'ai dit, écoutez, madame, je suis chez moi, ou monsieur, je suis chez moi,
ouais.
Et je suis pas chez vous. Si je suis chez quelqu'un, c'est chez les autochtones.
Ouais.
Alors, il faut être fier de ce qu'on est. Et on est ici, chez nous. C'est notre Québec. Et cette notion de notre Québec, je l'ai défendue depuis 1998 en me présentant comme candidat indépendant aux élections provinciales.
Oui, Monsieur McCarran, vous savez que...
Notre Québec à tous. Hein.
Ouais, je comprends, ouais. Mais des craintes. Hein, je parle de la dernière arrestation à Ottawa. C'est quand même des craintes... quand même,
oui, là, vous entrez dans le domaine politique. Effectivement, on essaye de... Moi, je dirais que... Parce qu'il n'y a pas des preuves tangibles. Hein. On arrête des gens parce que, ah, ils vont faire quelque chose.
Ouais.
N'oubliez pas que... Lorsqu'ils ont arrêté des gens à Toronto, ben c'est parce qu'ils ont été infiltrés par quelqu'un à qui on a donné une somme d'argent importante pour les inciter à faire quelque chose. Alors, est-ce que c'est des choses préfabriquées ou des choses réelles ? Moi, je suis pas un enquêteur dans ce domaine, mais est-ce que c'est pour stigmatiser une population ? C'est possible.
Ouais.
Moi, je leur ai dit, j'ai fait une conférence de presse en 99 quand ils ont dit un réseau terroriste à Montréal, algérien, etc.
Ouais.
J'ai appelé les médias et je leur ai dit, écoutez, si vous avez quelque chose contre des voleurs, dites que c'est monsieur tel, ne parlez pas d'arabe ou d'islamique. Alors, et j'ai envoyé des mises en demeure aussi bien à la police qu'aux presses, etc. Ouais. Et ils se sont excusés. Ils se sont excusés, mais ça n'a pas été plus loin. Alors, parce que les gens qu'ils ont mis dans les médias, comme quoi c'est un réseau, ils ne se connaissaient même pas entre eux.
Mais monsieur Bekeran, excuse-moi, est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour les auditeurs?
Ah, c'est terminé.
Un dernier mot à dire, oui.
Ah bon, alors pour améliorer la situation, moi je dis qu'il faut rester combatif. Ouais. Parce que celui qui est discriminé n'est pas un perdant s'il est actif. Il faut rester combatif, actif, pour améliorer la situation dans notre Québec à tous. Et c'est pour ça qu'on a maintenant un nouveau parti politique, c'est le mouvement Équité au Québec.
Merci, M. Mekaran. Donc, voilà, c'est tout ce qui nous reste de notre temps aujourd'hui. Je remercie M. Mostafa Benkeran d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir parlé librement. Merci à M. Dan Philippe pour sa collaboration. Et merci aussi à Mme Marion Longuet pour le son. Et sans oublier, Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace pour que la parole de l'autre existe. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'être à l'écoute et à l'intérêt du prochain à la même heure.
Je calcule tout ce qu'ils ont volé, ça ne vaut pas pour les grands qui sont dehors. On s'en va libérer les petits voleurs de la maca et les faire remplacer
par les grands qui sont dehors.
Quand on calcule tout ce qu'ils ont volé, ça ne vaut pas pour les grands qui sont dehors. Il faut libérer Pincho, on va libérer Johnny, il faut libérer Pablo, il faut libérer Tino, non, non, non. Ils sont sans pitié.
C'était votre mère. Et si vous êtes victime d'abus sexuels, appelez-nous. On peut vous aider.
514-274-8117. 274-8117.
Qui a voté, qui vote, qui votera, pour qui et pourquoi? La réponse à l'émission L'Histoire jugera. Tous les mardis matin, à 8h.
Radio Centre-Ville, c'est 35 ans de vie socioculturelle, francophone, lusophone, créolophone, hellénique, hispanophone, anglophone, mandarin et cantonais. Aidez-nous à maintenir cette tribune d'expression en participant à notre Radiothon qui se déroulera la fin de semaine du 10, 11, 12 septembre 2010 sur le 102,3 FM. Pour faire un don, composez le 514-495-2597 ou via notre site au www.radiocentreville.com. Et n'oubliez pas que les 10 11, 12 septembre, un don pourra faire toute la différence pour les 35 prochaines années. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Vous avez une soif inaltérable de savoir ? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102.3 FM et sur le câble au 88.3.